ta parole. Et nous voudrions, Père, marcher avec toi. C'est toi qui es notre lampe. C'est toi qui dois conduire nos pas partout où nous irons, Seigneur. Voilà pourquoi nous voudrions te faire confiance, mon Dieu, mon roi, mon créateur. Je te dis encore merci pour le privilège que nous venons d'avoir depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Tu as été avec nous. Qu'avions-nous fait par rapport aux autres, Seigneur? Rien du tout. Alors, Père, pour cette grâce, Seigneur, nous ne voudrions pas, Papa, être comme des irréconnaissants. Nous venons te dire merci. Merci, ô Père, pour ce que tu as encore permis, ô mon Dieu, que ton peuple puisse arriver. Tu as dirigé les pas, tu as protégé contre les accidents, Père. Plusieurs partiront et n'arriveront pas. Mais nous, nous sommes partis, nous sommes arrivés devant ta face. Nous te sommes très reconnaissants. Merci, ô mon Dieu, Père, pour les cantiques qui viennent de monter vers toi, pour la gloire de ton Saint-Nom. Maintenant, Père, le temps d'écouter la parole est arrivé. Que le Saint-Esprit vienne se mouvoir dans cette salle. Que le Saint-Esprit visite chaque cœur et réponde, ô mon Dieu Père, à toutes tes questions, à tout besoin, Seigneur. Et que tu puisses oindre, Père, leurs oreilles pour qu'ils puissent écouter comme écoutent les disciples. La personne qui parle, Seigneur, entre tes mains. C'est un instrument qu'il s'efface, mais que le Saint-Esprit lui-même puisse venir et prendre la place qui lui revient. Père, pardonne, Père, toutes nos offenses, Père. Nous sommes nés dans l'iniquité, constant les péchés. C'est pourquoi, comme toi, tu es saint, tu ne supportes pas les péchés. Nous te demandons de nous regarder uniquement au travers du sang de ton Fils. Et nous te prions dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. En tout cas, nous disons grand merci au Seigneur. Grand merci au Seigneur. Lui, il est capable de blesser et il est aussi capable de bander les plaies, n'est-ce pas?
Amen.
Alors, nous ne devons que lui faire confiance. Lui faire confiance parce que lui, il sait toujours ce qui est mieux pour nous.
Amen.
Et il ne se trompera jamais. Et comme il ne se trompera jamais, nous devons tout simplement avoir des yeux fixés sur lui.
Amen.
Alléluia. C'est lui le poteau indicateur. Nous devons avoir uniquement nos regards tournés vers lui pour que nous ne soyons pas distraits. Alléluia. Alors vraiment, que Dieu bénisse tout le monde qui est là. Et en particulier, la famille Mbaya, que Dieu vous assiste, que Dieu nous assiste aussi au moment où nous sommes en train de larmoyer. Mais lui, il sait ce qu'il a fait et que quand nous lui faisons confiance, il ne décevra jamais. Alléluia. Très bien. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé le privilège d'être à nouveau ce soir rassemblés ici.
Amen.
Non pas pour venir acheter, non pas pour venir vendre, mais nous sommes venus pour écouter la parole. Amen. Et la parole, c'est la chose la plus importante pour un enfant de Dieu.
Amen.
Parce que cette parole, elle a été éprouvée.
Alléluia.
Alléluia.
Amen.
Une parole éprouvée nous donne des garanties. Des garanties.
Amen, amen.
Les sœurs, vous savez quand on dit super wax, et vous savez de quoi on parle. On regarde la lisière. Super wax. Quand on dit wax hollandais, on regarde à la lisière pour pouvoir donner les preuves, n'est-ce pas?
Amen.
Que c'est vraiment une pièce wax hollandais.
Amen, amen, amen.
Et quand c'est de l'indigo, il faut donner des preuves. Alléluia. Mais ça, ce sont des preuves humaines. Mais la parole de Dieu est éprouvée.
Amen, amen, amen.
Alléluia.
Alléluia.
En toutes choses.
Amen, amen.
Cette parole qui a tout créé.
Amen,
cette
amen,
parole
amen.
Qui a tout fait.
Yes.
Cette parole
amen,
qui restera.
Amen, amen.
Le ciel et la terre passeront.
Amen,
mais
amen.
Cette parole ne passera jamais.
Alléluia.
Cela nous donne une preuve tangible que la parole de Dieu a été éprouvée. C'est pour cela. Il faut être dans la joie quand tu viens écouter cette parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole du Dieu créateur.
Amen.
Il a tout créé par sa parole.
Alléluia.
Ici, ce soir, nous sommes venus prendre Pitacris. Alléluia. Pitacris. Ce ne sont pas des inventions. Pitacris. Vitamine de Christ. Alléluia. Et Pitacris, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Pitacris, des bonnes vitamines pour nos âmes. Alors, mes bien-aimés, vous savez, j'avais été conduit pour retourner dans la prière et pour préciser un aspect de la prière qu'on a oublié. C'était la prière d'intercession, n'est-ce pas? Cette prière d'intercession, nous venons de voir maintenant les tenants et les aboutissants. Nous avons vu quelle était la valeur ajoutée de cette prière d'intercession. Alors, nous avons vu trois cas de figure. D'abord, en partant de notre Seigneur qui est l'exemple. Et Ésaïe 53, 12 nous a donné quatre points pour montrer l'aspect de l'intercession dans la vie de notre Seigneur. N'est-ce pas? Alors, le Seigneur a livré son âme à la mort selon Lévitique 17, 11. Premier aspect que souligne Ésaïe 53, 12. Deuxième aspect, le Seigneur a été compté parmi le transgresseur selon Matthieu 27, versets 37 à 38. Et le Seigneur a porté les péchés de beaucoup d'hommes selon 1 Pierre 2, 24 et Jean 1, 29. Enfin, le Seigneur a intercédé pour les coupables, selon Luc 23, 34. Ça, c'était l'aspect de l'intercession dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
Nous sommes allés dans le Nouveau Testament où nous avons vu deux modèles d'intercession. D'abord, en la personne d'Abraham, dans Genèse 18, verset 23 jusqu'à 33. Et quand nous avons terminé cela, nous sommes allés dans Exode 32, versets 7 à 14, pour voir l'aspect de l'intercession de Moïse et de son frère Aaron. Alléluia.
Amen.
Et nous avons vu chaque fois comment ces exemples étaient des exemples poignants pour se dire que, attention, si on n'est pas, je dis bien, si on n'est pas de tout cœur avec le Seigneur, tu laisses cette affaire. Alléluia.
Amen.
Tu laisses cette affaire. On ne va pas procéder comme, bon, dans d'autres versions que nous appelons les églises pentecôtistes, là où vous avez tout est organisé, service d'intercession, il y a ceci, cela. Attention, c'est une affaire complexe. Il faut faire la différence entre une affaire complexe et une affaire compliquée. Ici, c'est une affaire complexe. Il faut faire attention, sinon vous allez avaler tout. Vous allez avaler tout. J'insiste, il faut faire attention. C'est une affaire très complexe. Très complexe, alors vous devez être très bien renseigné. Alléluia. Il faut être très bien renseigné pour ne pas tomber dans le panneau. J'insiste, il faut être bien renseigné pour ne pas tomber dans les panneaux. Et ces choses, souvent, se passent en semaine. Je suis désolé. Alors là, ce soir, je vous invite un peu à vous lever après avoir fait le tour en prenant trois exemples, ce soir, j'aimerais lire avec vous dans l'Ancien Testament. Plus précisément, dans les livres du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 22. À partir du verset 23 jusqu'à 30. Ézéchiel 22. À partir du verset 23 jusqu'à 30. Nous allons lire doucement, en ayant un cœur bien disposé pour capter ce que tu es en train de lire. On y va? Chapitre 22, versets 23 à 30. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient le veuve au milieu d'elles. Les sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur, il détourne les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs, ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, comme de rapine, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Quelle impression vous laisse cette portion des Écritures que nous venons de lire? Nous sommes dans l'Église, n'est-ce pas? Nous sommes dans l'Église. Les situations qui sont décrites sont dans l'Église. Alléluia. Ah. Les situations qui sont décrites sont dans l'Église. Pendant les trois moments où je présentais d'abord la théorie sur la prière en général et la prière d'intercession en particulier, là où nous avons donné toutes les nuances possibles entre prière en général et en particulier prière d'intercession, j'utilisais Ézéchiel 22, verset 30. Alléluia.
Amen.
J'utilisais souvent Ézéchiel 22, verset 30, que le Seigneur était à la recherche d'un homme. Alors aujourd'hui, nous allons mettre ce verset 30 dans l'ensemble du chapitre 22.
Amen.
Le chapitre 22 d'Ézéchiel a 31 versets.
Oui.
Alléluia.
Amen.
Alors, pour comprendre ce que nous venons de lire, nous devons commencer à partir du verset premier. Alors, pour avoir le titre de la prédication de ce soir, c'est le verset 30 que nous allons utiliser. Le titre de sa parole pour toi et pour moi ce soir sera « Je cherche un homme parmi eux, virgule. » Je pense que Nat, tu trouveras de la place pour écrire ce titre. Alléluia. Je cherche un homme parmi eux, mais je n'en trouve point. Je cherche un homme parmi eux, mais je n'en trouve point. Alors, pour bien comprendre comment le Seigneur parle, nous devons remonter jusqu'au premier verset. Alléluia. Et le travail que nous allons faire, je demande à tout le monde d'avoir sa Bible, sinon ça ne marchera pas. Tout le monde doit avoir des yeux dans sa Bible. C'est comme cela que nous allons travailler. Puisque du premier verset jusqu'au 30e verset, c'est de la trotte. Hein? Alléluia. Alors il faut votre participation active. Pour comprendre l'essence globale de ce que nous venons de lire, comme je l'ai dit, nous sommes obligés de remonter jusqu'au verset premier. Alors, vous découvrez le texte maintenant. Moi, des heures et des heures que je passe chez moi pour étudier. Alléluia. Donc chez moi, quand je parle, vous, puisque c'est maintenant que vous découvrez le texte, il faut faire très attention. Alléluia. Alors, dans ce chapitre, nous remarquerons qu'il y a trois messages. Il y a trois messages à propos de la souillure et du jugement de Jérusalem. Le premier message, c'est au verset 1. Qu'est-ce qui est écrit, Noah ?
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Jusqu'au verset 16, c'est le premier message. Alléluia. Tout le monde a vu? Jusqu'au verset 16, c'est le premier message. Le deuxième message.
La parole de
l'Éternel. Le deuxième message, c'est à partir du verset 17. À partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Non, 22. Ça va? Le verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Noah?
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Alors, jusqu'au verset 22. C'est la deuxième parole et nous verrons le contenu de chaque message. Alléluia. Et le dernier message, verset 23 jusqu'au verset 31. Alléluia. Verset 23, qu'est-ce qui est écrit?
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Voilà. Donc, le Seigneur dévoile son plan d'action en trois messages à son prophète. Alléluia. Prenons le premier message, Noah. Tu peux lire?
Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations.
Stop. Le premier message donne la cause du jugement. Pourquoi Dieu va juger? Alléluia. Et là, le premier message va du verset premier jusqu'au verset 16. Alors, du verset 1er jusqu'au verset 5, Dieu demande à Ézéchiel. Verset 2, quelle est la question que Dieu pose à Ézéchiel?
Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations.
Voilà. Ensuite, au verset 3 et 5, Dieu ordonne à Ézéchiel de proférer des accusations contre la ville. Tu peux lire le verset 3 et 5 pour que vous puissiez le voir. Dieu ordonne à Ézéchiel de proférer des accusations contre la ville. Verset 3 et 5, tu peux lire.
Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu, et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui es souillé de réputation et pleine de troubles.
Tu as entendu? Donc ici, Dieu a ordonné à Ézéchiel de proférer des accusations contre la ville, n'est-ce pas? Et à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, Ézéchiel va citer les péchés qui sont violés spécifiquement par rapport aux 10 commandements. Je répète, verset 6 jusqu'à 12, Ézéchiel cite les péchés qui violaient spécifiquement quelques-uns des 10 commandements. Vas-y. Ézéchiel va citer tous ces péchés. Vas-y.
Voici au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère. On maltraite l'étranger. On opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires. Tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. On commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel.
T'as entendu? T'as entendu? Alors, tout ça, non, Dieu, il est merveilleux. Amen. Tout ça se passe dans la famille du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, en regard, le peuple de Dieu a les 10 commandements. Hein, le peuple de Dieu s'en fout. Alléluia. Le peuple de Dieu s'en fout et viole certains de ces 10 commandements. Et Ézéchiel cite tous ces péchés que le Seigneur n'est pas d'accord. Alors ici, vous allez dire, ah, mais oui, mais c'est honteux. Et maman, papa, est-ce qu'aujourd'hui, toi, c'est pour cela que j'avais dit et j'avais promis, je prêcherai un jour, si Dieu le veut, sur examinez-vous vous-même. Alléluia. Amen. Au lieu de regarder à gauche, à droite, hein, tu dois connaître l'état de ton âme. Parce que ta conscience ne m'accusera pas. Ta conscience fait le travail de t'accuser toi-même. Alléluia. Donc, c'est le reflet de ta vie. C'est le reflet de ta vie. Papa, quand tu viens, il a bien écouté. Papa, maman, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. L'examen te concerne. C'est la manière dont tu pratiques.
ce que tu écoutes. Alléluia. Alors nous voyons ici le peuple élu par Dieu lui-même et que Dieu prenait soin de ce peuple. Alléluia. Ils n'ont manqué de rien. Regardez ce qui se passe avec ce peuple. Alléluia. Ézéchiel vient de citer tout le péché qu'il violait dans les 10 commandements. Et à partir du verset 13 jusqu'à 16, Dieu frapperait de main en se moquant de Jérusalem. Tu peux lire.
Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai.
Voilà.
Je te disperserai parmi les nations. Je te répandrai en divers pays. Et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations. Et tu sauras que je suis l'Éternel.
Ah, verset 16, il dit, tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des frères et des sœurs. Alléluia. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des frères et des sœurs. Attendez. Entre ceux d'autrefois, les enfants d'Israël et nous, qui ont fait des expériences terribles entre eux et nous. Si eux, qui ont eu ce privilège d'expérimenter le Dieu créateur du ciel et de la terre, et toi, qu'as-tu déjà vu? Hein? Si eux, ont vu des choses énormes, mais ils arrivent quand même à se comporter comme ça. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Frères et sœurs, ça ne vous interpelle pas? Il faut se rendre compte que la bataille est rude. Et la bataille, c'est où? L'impureté commence où? Là-bas. Là-bas, dans la tête. Plus grande bataille jamais livrée. Alléluia. Donc faisons très, très attention. Si c'est chaque fois quand tu te réveilles, Seigneur, ces gens-là dont la Bible nous parle, tu as dit que tout a été écrit pour notre instruction. En tout cas, Seigneur, aide-moi. Aide-moi pour que, à chaque pas que je vais placer sur cette terre, soit mon soutien.
Alléluia.
À chaque pas. Et chaque fois que tu vas penser une parole qui n'est pas conforme à la vérité biblique, crie. Non, tu ne passes pas. Tu ne passes pas. Manœuvre de l'ennemi. Cette parole ne me correspond pas. Alléluia. Si vous acceptez cette invitation, et que l'individu se loge dans tes pensées, c'est plié. Alléluia. C'est plié. Tu vas entrer dans les murmures, ah oui, mais moi, tu sais quoi? Hein? Moi, je ne sais rien. Ce sont tes pensées.
Amen.
Ce sont tes pensées. Tu n'as pas veillé sur tes pensées.
C'est vrai.
Tu as laissé libre cours tes pensées. Alléluia. Donc nous venons de voir le premier message que Dieu a envoyé à son prophète Ézéchiel, n'est-ce pas?
Amen.
Ici, l'acte d'accusation de Dieu est clair. Dieu n'invente rien. Il appelle à la barre, il donne à son prophète le message à propos de la souillure et du jugement qu'il a arrêté pour Jérusalem. Alléluia. Le premier message, il donne les causes du jugement. Alléluia.
Amen.
Dieu donne les causes du jugement. Maintenant, le deuxième message. Verset 17. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. 17 jusqu'à 22. Tu peux lire?
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots.
Oui.
Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories.
Mmh.
Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, les reins, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur et vous serez fondus au milieu de Jérusalem comme l'argent fond dans le creuset. Ainsi, vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous.
OK. Premier message, Dieu donne à son prophète les causes du jugement. Et le deuxième message concerne le moyen que Dieu va utiliser pour exercer son jugement. Alléluia. Et là, il parle en parabole de scories dans la fournaise. Donne tous les moyens. Donc, le second message souligne que Jérusalem deviendrait une fournaise d'affection, une fournaise de jugement qui ferait fondre ce qui était resté. Pour Dieu, Israël était devenu inutile. Alors, au verset 18, qu'est-ce que Dieu dit?
Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories.
Jusque-là, les scories sont le sous-produit de la fonte. Mais Dieu allait faire refondre ces scories. Alors, pour information, moi je ne suis pas ingénieur en métallurgie, une information rapide. Les scories sont des résidus qui restent après la purification du métal. Donc, ce sont des saletés. On a rien à faire avec ça. Hein? Ça n'a pas d'utilité. Quand on passe... Non. Je ne vais pas m'aventurer là-bas. Si l'autre était là, Coco était là, il allait nous expliquer comment ça se passe. Quand on prend de l'étain, du métal, on met dans la fournaise, et puis ça chauffe. Tout ce qui est impur saute. Ce sont là les scories. Donc Dieu donne le moyen qu'il va utiliser. Et regardez, il dit, fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb, dans le creuset. Alléluia.
Amen.
Dans le creuset. Donc ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. Hein, mais moi, tout le temps, j'ai des soucis. Mais les causes de ton jugement a été identifiées, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu te fait passer dans le creuset.
Oui.
Alléluia.
Amen.
Dieu te fait passer dans le creuset.
Amen.
Noah,
oui.
Rapidement, interroge Google, creuset. Donne-nous la définition du mot creuset. Alors là, il va chauffer. Où est-ce que tu vas t'enfouir? Complication. Creuset, Noah. Que dit Google?
Récipient qui sert à faire fondre ou calciner certaines substances. On dit aussi lieu où, où diverses choses se mêlent, où une chose c'est pure. Donc c'est un récipient qui sert.
Recommence pour que tout le monde puisse un peu entendre. Sinon, à la maison, on ira chercher les mots creusés. Alors nous passons. Mais pour montrer, c'est un endroit où vraiment le Seigneur lui-même prend la direction. Il y a du feu et ça chauffe. Nous pouvons nous souvenir de Shadrach, Meshach, Abednego, n'est-ce pas? Le roi demande qu'on chauffe 7 fois.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Alors, il y a d'autres métaux pour fondre. Il faut atteindre des degrés. Alors là, c'est Dieu qui prend la direction.
Amen.
Alléluia. Dieu lui-même prend la direction. Parce que dans ta tête, c'est pas normal. Dans ta tête, les réseaux a sauté. Il n'y a rien. Bon, ok. Comme l'intensité, on va voir. Alors, premier message, Dieu donne les causes du jugement. Deuxième message, Dieu donne le moyen qu'il va utiliser.
Amen.
Et il parle en parabole de scories, hein? Parabole de scories dans la fournaise. Comprenez ça. Scories qui sont dans la fournaise, comment est-ce qu'on obtient des scories après avoir chauffé l'étain, le plomb, le métal. Alors, cette saleté-là, ces résidus-là qui restent après la purification du métal. Dieu n'a pas besoin de s'altérer. Jette dehors. Troisième message. C'est à partir du verset 23, là où nous avons commencé à introduire notre message de ce soir. Alors, ce troisième message, mon frère, ma soeur, ouvre bien les oreilles. Ce troisième message nous donne les gens qui sont concernés. Alléluia. Et suivez bien ces gens qui sont concernés. Ce ne sont pas les moindres. Alléluia. Lis un peu, Noah.
La parole de l'Éternel me fut adressée
23, 29.
Oui. En ces mots.
Oui.
Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein.
Stop. Pourquoi est-ce que la terre d'Israël n'est pas purifiée? Pourquoi est-ce que la terre d'Israël n'est pas purifiée? À cause de la désobéissance. Alléluia.
Amen.
Cause de la désobéissance, la terre d'Israël n'est pas purifiée. Pas de pluie, rien du tout. Alléluia. Et tu peux continuer.
Ses prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Il multiplie les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane.
T'as entendu ça? Les sacrificateurs. Est-ce que nous ne le voyons pas aujourd'hui? Courir les rues, inventant des histoires.
Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, des veines. Des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice.
Vous avez entendu? Donc ici, Dieu précise toutes les personnes qui sont concernées. Alléluia! Alléluia! Les prophètes, les sacrificateurs, les chefs et le peuple. Alléluia! Donc, toute la nation est dans une situation compliquée. Personne n'est épargné. Les prophètes, les sacrificateurs, les chefs et enfin le citoyen lambda, le peuple. Alléluia. Et en ce moment-là, il n'y a plus de référence. Il n'y a plus de référence. Tout le monde va vivre comme il entend. C'est comme à l'époque des juges. Alléluia. Parce que bonbon. Ah, celui-là, c'est un frère zélé. Oh, quel frère zélé. Lui aussi, là, il a des soucis. Ah non, je vais aller voir le diacre. Ah, quel diacre. Lui aussi, là, il a des casseroles qu'il est en train de traîner. Oh non, je vais voir le prédicateur. Oh, dans ce tiroir, il y a des cadavres. Mais c'est ça que nous venons de voir. Qui a été épargné? Qui a été épargné? Hein? Personne n'a été épargné. Mais le matin, on fait semblant d'être, alors que notre vie n'est pas digne de l'Évangile. Notre vie, mon frère, ma sœur, n'est pas digne de l'Évangile. Mais nous avons des titres. Prédicateur. Docteur, évangéliste, pasteur, et papa, arrête ça. Alléluia. Arrête ça parce que tu es à côté. Soyez certains de Dieu. À la page 24, paragraphe 123, le messager dit ceci. Êtes-vous un pécheur? Pose des questions. Votre besoin est-il grand? Sachant que si Dieu appelait aujourd'hui, vous seriez perdu. Comme les prophètes, sacrificateurs, les chefs et le peuple du temps d'Ézéchiel. Alléluia. Êtes-vous un rétrograde? Fuyant Dieu? Vous savez que vous êtes membre d'une église et pourtant vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. C'est là que je dis. Dimanche, nous viendrons sur l'examen de nous-mêmes. C'est la conscience, il est dit, hein? Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle. Il ne faut pas attendre que le frère X ou la sœur Y vienne te dire. Non, tu sais. Mon frère, regarde dans les yeux. Tu sais. Tu es dans quoi? Tu sais comment tu évolues. Ma sœur, tu sais dans quelle combine tu es? Tu sais. Mais le dimanche, habille de l'église. Habille de l'église, sac de l'église. Tu viens de l'église. Tu dois être nickel. En harmonie. Attends. Si la situation qui est décrite dans Ézéchiel 22, du verset 1er jusqu'au verset 30, et nous, qu'est-ce que nous représentons? Donc il dit, votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Vous avez un besoin. Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ou sur des pierres de cœur de pierre. Puissent-elles tomber dans une bonne terre fertile? Ceci exige l'obéissance. Rien d'autre. Vous voyez, la terre d'Israël n'a pas été purifiée. Ces prophètes, ces sacrificateurs, ces chefs et le peuple, tout le monde était dans le pétrin. Tout le monde était dans le pétrin. Ne cherche pas de l'aide de gauche à droite, non. C'est là que si vous suivez bien la manière dont les choses vous sont présentées, quand on vous met maintenant le réveil, il y a une cause. On ne va pas faire Non. Il faut suivre la manière dont les choses se passent là où vous êtes, pas ailleurs. Là où vous êtes. Verset 30. Noah, puisque maintenant on vient de nous dire sacrificateur, c'est la catastrophe. Et c'est comme cela que va intervenir le verset 30. Trois messages de Dieu envers son prophète, l'objet d'accusation, le moyen qu'il va utiliser, et enfin les personnes qui sont concernées. Alors maintenant, le Seigneur regarde. Verset 30, Noah.
Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas.
OK. Alors, il cherche un homme parmi des sacrificateurs corrompus, des prophètes corrompus, des chefs corrompus et des peuples corrompus. Mais Dieu ne travaille pas ailleurs. Dieu ne travaille pas ailleurs. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Dieu ne travaille pas ailleurs. Parmi vous. Mais ici, malheureusement, pour eux, ce jour-là, Dieu n'a trouvé personne. Pourquoi? La corruption était si répandue que lorsque Dieu cherche un homme capable de contrôler la marée de la destruction nationale, il n'en trouva point. Toutes les parties de la population avaient été complètement corrompues. Corrompues. L'amnésie spirituelle. Page 8. Paragraphe 50. De même, le peuple de Dieu, en ces derniers jours, a oublié ce que voulait dire avoir un témoignage chrétien. Ils n'ont pas un témoignage chrétien. C'est l'apparence d'être des chrétiens et des chrétiennes. Mais le vrai témoignage chrétien, on n'en trouve plus. On est pris par la tendance. La tendance. Mais cette tendance va vous jouer des tours. Parce que dans la foule, quand on va observer, toi, tu ne seras pas remarqué. Parce que tu es dans la tendance. On se comprend? Tu ne seras pas remarqué. On ne verra pas la différence. Mais quel est cet élément qui fait la différence entre tout le monde ici. C'est le témoignage chrétien. C'est le témoignage chrétien. C'est ça l'objet du message. C'est ça l'objet du message, le témoignage chrétien. C'est de nouveau cette amnésie qui est venue sur les gens. Ils ne peuvent pas s'identifier. Mais les gens s'identifient au monde. Être dans la tendance. Et tu dois être un chrétien de lignée pure. Tu dois être un chrétien de lignée pure, ma sœur, mon frère, et toi qui parles aux autres. C'est si facile aujourd'hui. On oublie parfois ce que l'Église chrétienne. On agit comme le monde. Cela montre qu'on a l'amnésie spirituelle. Parce qu'on n'agit pas comme des chrétiens. On agit comme le monde. Alors, le peuple du temps d'Ézéchiel, malgré qu'ils se sont retrouvés dans une situation misérable, mais Dieu vient, il cherche encore parmi eux.
Alléluia.
Alléluia.
Amen, amen.
Est-ce que vous comprenez la miséricorde de Dieu? Il ne va pas se chercher ailleurs. Il ne va pas chercher ailleurs. Importer. Non, 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 non. On n'importe pas.
Alléluia.
On n'importe pas.
Amen.
Chez nous, dans la maison, qui est. Parce
Alléluia.
Que celui qui est de la maison connaît au moins tous les coins de la maison.
Amen.
Amen.
Et je voudrais attirer ton attention sur l'ordre dans lequel les personnes concernées sont citées. Cela est significatif. On commence par qui? Noah.
Le
prophète. Après qui? Le sacrificateur. Après qui? Le
chef.
Après qui? Le peuple. C'est pour nous montrer que la corruption a commencé depuis la tête. Alors, quand ça commence depuis la tête, que feront ceux d'en bas? Ceux d'en bas sont aussi infectés. Ah, oh, mais oui, mais c'est le prophète. Hein? Ah oui, mais c'est le sacrificateur. C'est le sacrificateur. Oui, c'est le diacre. Oui, c'est le choriste. Oui, c'est ceci. Mais alors, est-ce que tu peux me lire Ésaïe 1, versets 5 et 7?
Quel châtiment nouveau vous infligez?
Ah.
Quand vous multipliez vos révoltes,
oui.
La tête entière est malade.
Voilà. Et oui.
Et tout le cœur est souffrant.
Et oui.
De la plante du pied jusqu'à la tête.
Voilà.
Rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandère, ni adouci par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu.
Oui.
Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux.
Ok.
Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée.
Merci beaucoup. Cependant, même si chaque partie de la société était ainsi corrompue, la situation n'était pas encore désespérée.
Ah oui.
Alléluia. Parce que Dieu vient chercher. Alléluia. Dieu vient chercher pour montrer que la situation n'était pas encore désespérée. Donc, je voudrais vous dire ceci. Tu n'es pas méchant tout le monde.
Amen.
Ah oui. Tu n'es pas méchant tout le monde.
Amen.
Tu n'es pas méchant tout le monde.
Amen.
La situation n'était pas encore désespérée. Dieu cherchait après un homme, un intercesseur, qui se tienne à la brèche et élève un mur afin qu'il puisse épargner toute la nation. Alléluia. Mais parce qu'il n'en a pas trouvé, verset 31, Noah, que dit Dieu? Verset 31, Noah, tu es où, mon frère? Oh là là là. Ézéchiel 22, verset 31.
Je répandrai sur eux ma fureur.
Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas trouvé un homme. Alors, le verset 31, qu'est-ce que Dieu dit?
Je répandrai sur eux ma fureur.
Oui.
Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel.
Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas trouvé un homme parmi eux. Un intercesseur aurait pu sauver une nation entière du jugement, n'est-ce pas? Un intercesseur aurait pu sauver toute une nation du jugement. Israël souffrirait à cause de son péché. Il s'était rebellé contre la grâce de Dieu. Maintenant, il va subir la colère de Dieu inévitablement. Alléluia. Inévitablement, Israël va subir la colère de Dieu. Pour terminer, mon frère, je cherche un homme parmi eux, mais je n'en trouve pas. Et comme il n'en trouve pas, Dieu arrête son jugement. Dieu dit, je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu. Alléluia. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Terminé, puisque la première fois quand j'avais exposé l'intercession, cette question m'a été posée, c'est pour cela que je pensais à ça, pour terminer sur ça. Pour terminer, je voudrais citer certaines qualités que nous pouvons reconnaître dans tout véritable intercesseur. Nous avons vu l'exemple de Christ, n'est-ce pas? Nous avons vu l'exemple d'Abraham et nous avons vu l'exemple de Moïse et d'Aaron. Alors là, j'ai fait une synthèse de la manière dont ces gens se sont comportés. Alléluia. Alors, première qualité, un intercesseur comme Abraham doit avoir une conviction absolue de la justice de Dieu. Et c'est comme cela qu'Abraham va intercéder pour les gens qui étaient à Sodome et à Gomorre. Alléluia. Il a mis la justice de Dieu avant. Que Dieu n'apportera jamais le jugement qui est dû seulement aux méchants sur le juste. C'est ça qu'Abraham donne comme argument à Dieu. Parallèlement, il doit avoir une vision claire de la justice absolue, du caractère inévitable du jugement de Dieu sur les méchants. Ça, c'est la première qualité que nous pouvons observer. Deuxième qualité, il doit être profondément concerné par la gloire de Dieu. Alléluia. Comme Moïse qui déclina par deux fois l'offre de Dieu de faire de lui l'ancêtre du plus grand peuple sur la terre. Ah. Moïse a refusé, il dit, mais que diront les Égyptiens? Si tu fais ça? Non. Troisième qualité, il doit avoir une profonde compassion pour les autres. Souvenez-vous de la compassion de Christ. Quand on va mettre en terre les fils uniques de cette veuve de Naïm, La Bible dit, le Seigneur était ému de compassion. Ah, il a remis l'enfant à sa maman. Alléluia. 4. Il doit avoir une connexion spirituelle avec Dieu. Autrement dit, il doit avoir une relation intime avec Dieu. Une, je dis bien, relation intime. Pas comme ce pharisien dont parle la Bible. Ah, moi, je ne suis pas comme lui. Je prie une dîme, je paye ma dîme. Je fais... Non. Ouvre ta porte, c'est derrière. Alléluia. C'est là où se passe cette conversation. Hein? Avec votre Père. C'est là. Tu dois avoir un petit coin dans ton cœur. Dans ta chambre. Et des moments à privilégier. 5. Il doit avoir une volonté de se tenir debout pour les autres dans la brèche. Nous avons dit, le Seigneur a intercédé pour le coupable. Alléluia. Il a intercédé pour le coupable. 6. Il doit enfin avoir une solide foi en l'efficacité de la prière pour changer les situations. Mm-hmm. Alléluia. Mm-hmm. Et devant la scène de Lazare, tout ça, il a, Père, je savais que tu m'exauces toujours, hein, mais je le fais pour eux. Alléluia. Moi aussi. C'est quelque part, il a dit, je pense dans Marc, ayez foi en Dieu. N'est-ce pas? Ayez foi en Dieu, après il a dit là, tout ce que vous demanderez par la prière, si vous ne doutez pas dans votre cœur, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Donc, quand tu te mets à prier, il faut que tu aies une solide foi en l'efficacité de la prière pour changer les situations. Mon frère, ma soeur, pour tout ceci, Dieu exige une condition fondamentale. Laquelle? L'obéissance qui sera suivie de la foi. Alléluia. L'obéissance qui sera accompagnée par la foi. Marche toujours ensemble. Donc, si Dieu peut trouver des intercesseurs pour différer ses jugements et appeler sa miséricorde, je crois certainement que le réveil sera possible dans cette assemblée. Alléluia. Je répète. Si Dieu peut trouver des intercesseurs pour différer ses jugements et appeler sa miséricorde, je crois que le réveil sera possible dans cette assemblée. Vous avez vu, il a donné la cause, il a donné le moyen qu'il allait utiliser, et il a cité le peuple qui était concerné, mais malgré cela, il est encore venu chercher un homme. Alléluia. Donc la situation n'était toujours pas perdue. Nous aussi, ce soir, si Dieu peut trouver des intercesseurs pour différer ses jugements et appeler sa miséricorde, je crois que le réveil sera possible dans cette assemblée. Ne perdons pas de vue que le monde est un champ de bataille où s'affrontent le bien et le mal, n'est-ce pas? Et que la vie est un combat qui met aux prises la lumière et les ténèbres, n'est-ce pas? Amen. Alors écoute-moi bien. On a terminé, écoute-moi bien. Une vie tout confort est une vie hors de la vie.
Amen.
Je répète.
Amen, amen.
Une vie tout confort est une vie hors la vie. Ce n'est pas de la philosophie, c'est une réalité. Donc toi toujours, hein, tu roules carrosse, tu la coules douce et tout, tu peins tes ongles, tu... rien donc, rien. Tout est toujours normal. Non. Non. Vous aurez des tribulations, n'est-ce pas?
Amen.
Vous aurez des tribulations. Mes frères, Dieu cherche un homme. Donc, si Dieu peut en trouver un homme parmi nous, Dieu pourra différer son jugement et appeler sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse. Et la suite, nous nous retrouvons encore de ce côté du temps. Nous allons continuer à instruire le peuple de Dieu pour rester éveillé. Alléluia. Je l'aime, je l'aime.
Parce qu'il m'aime le premier.
Le premier est un qui m'a salé. Bois du calvaire, je l'aime. Merci pour l'opportunité que tu viens de nous accorder pour être encore autour de ta table et que nous venons d'être servis un repas copieux. Père, écoutez, c'est une chose, mais tu connais notre nature. Nous aimons des excuses, comme le jeune homme riche. Il avait une société, il ne pouvait pas s'en débarrasser. Nous aussi, Père, nous sommes piégés par ce genre de choses, mais que tu nous aides parce que tu as besoin de nous. Tu as besoin de nous pour que tu puisses manifester encore ta miséricorde et différer le jugement que tu as arrêté. Nous te sommes très reconnaissants, Seigneur, pour ce soir. Merci de tout ce que tu as fait pour nous. Ce soir encore. Maintenant que le temps de retourner dans nos demeures respectives est arrivé, de la même manière que tu nous as conduits pour arriver ici, dispose encore, Père, de ta grâce pour que nous puissions rentrer chez nous. Et si tu permets, demain, que nous puissions encore être de ce côté du temps, il y aura, ô mon Dieu Père, une action de grâce qui a été programmée, que tu puisses encore aider ton peuple. Père, regarde ceux qui traînent encore le pas. Que tu les assistes, Père éternel. Nous comptons seulement sur ta miséricorde, sur ta bonté, sur tes compassions. Père, merci pour ce que tu viens de faire pour nous ce soir. Laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Je te ainsi prie dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Notre réunion de ce soir est terminée. Que Dieu vous bénisse.